Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Edith Garnier. Bonjour Edith.
Bonjour.
Edith est écrivain en histoire, plus particulièrement en histoire maritime.
Oui, historien, on peut dire.
Historienne.
Carrément.
Carrément. Ouais. Edith s'est plutôt intéressée dans des périodes troubles de l'histoire qui sont le 15e et le 16e siècle. Alors, vous avez sorti il y a quelques années L'âge d'or des galères de France. Et cette année, vous sortez un livre, L'Alliance impie François Ier et Soliman le Magnifique contre Charles Quint, qui est sorti. Il sort quand ce livre?
Ah non, il est sorti jeudi dernier.
Jeudi dernier. Et ce sont les éditions Le Félin dans la collection Les Marches du Temps.
Exactement.
Voilà. Alors pourquoi s'être intéressé à une telle période qui est aussi dure à comprendre?
Parce que justement, elle était dure à comprendre. J'ai toujours été intéressée pour des histoires familiales. On sait toujours, bonjour la psychanalyse. Mon grand-père, qui était retraité à Toulon, avait écrit un livre qui s'appelait Bertrand d'Ornézan, marquis des Îles d'Or, et qui m'a offert quand j'avais 9 ans. Et ce livre traitait évidemment de la Méditerranée, puisque Bertrand d'Ornézan, dit Saint-Blancard, était donc sur le long terme le premier homme de mer de François Ier, en Provence en tout cas. À Marseille, le baron a été connu pendant 20 ans. Donc je me suis intéressée au personnage, et de là très vite aux questions de la Méditerranée qui en général.
Et vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés à trouver des documents, des archives? Sur quoi vous vous êtes basé finalement pour faire un tel travail?
Alors finalement, ce qui est très intéressant, c'est l'œuvre par exemple de Laroncière, qui date du début du siècle précédent, du début du 20e, mais qui était un archiviste. Donc Laroncière renvoie à des documents, et ensuite on va les consulter, on peut en penser éventuellement autre chose que lui, mais c'est le début de la pelote. À partir de là, on dévide, on tombe sur d'autres sources, et finalement on a énormément, énormément d'archives. C'est un temps de patience, mais c'est passionnant, parce que on arrive petit à petit à connaître les personnages, à savoir comment ils vont réagir dans telle situation. On sait de quoi il est question quand on lit n'importe quelle lettre. Parce que les personnages ne sont finalement pas si nombreux que ça. À l'époque, les personnages importants. C'est pas du tout comme de nos jours où les responsabilités sont diffuses. Là, il y a quelques personnages qui ont le pouvoir de décision. Et puis le roi, une hiérarchie. Mais donc, on s'y retrouve relativement facilement.
Et quels sont les principaux centres? Parce que là, je vous titille, hein, mais il y a aussi quand même pas mal de jeunes chercheurs qui nous écoutent. Et quels sont les principaux centres? Est-ce que, par exemple, les archives de Simancas en Espagne sont des sources inépuisables?
Ah, ça c'est sûrement, mais il faut y aller.
Oui.
Il faut aller sur place. Moi, j'avais essayé de consulter certaines archives, et on m'a dit, même moi à l'école des chartes, on ne peut pas, on m'avait dit qu'il fallait aller à la Casa Velázquez à Madrid. Bon, donc je me suis contentée de résumés, de copies de ces archives. Je sais ce qu'elles contenaient, mais je n'ai pas pu me rendre sur place. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Pour les archives italiennes, il y a énormément dans le fonds italien du département des manuscrits à Paris. Ça, il y en a énormément. Je dois dire que la mine inépuisable, ce sont les manuscrits rue de Richelieu.
C'est la Bibliothèque nationale.
De la Bibliothèque nationale, oui, exactement. Je pense que les étudiants ont des cours, c'est déjà lourd, ils ont du temps pris, ils ont des examens, ils n'ont pas le temps de s'immerger vraiment dans les documents de l'époque. Je pense que c'est un manque de temps.
Enfin, à part le doctorat quand même.
Oui. Mais pourquoi? C'est très difficile à décrypter, hein, l'écriture du 16e. Donc je pense que ça explique comme ça l'attirance par plutôt ce qui s'est passé au 17e qu'au 16e. Mmh. Est-ce que certains documents du 16e sont épouvantables à décrypter? Et oui, c'est vraiment un obstacle.
au XVIe siècle, je trouve que l'écriture du début XVIe est plus facile à comprendre que l'écriture de la fin du XVIe. Et pour moi, l'écriture de la fin XVIe et tout début XVIIe a été abominable.
Je ne sais pas, parce qu'il faut, faire la différence entre les écrits publiés, les livres, qui sont assez faciles à décrypter. Mais alors, où ça devient très très difficile, c'est quand ce sont des billets qu'adresse un capitaine, voilà, pour dire autoriser la descente de bois du Rhône parce qu'on a besoin de le descendre rapidement. Bon, alors ça, je peux vous dire, j'en ai trouvé certains aux archives de Grenoble. Je savais par la roncière ce que ça contenait, mais je vous assure que pour décrypter les textes, c'était absolument impossible. Tous ces petits billets faits vite faits et envoyés, là, très très difficile.
Alors dans cette période du XVIe siècle, on s'aperçoit que l'Italie est hyper importante pour tous ses souverains et que ça semble, je dirais presque, on veut l'Italie comme passeport permanent. J'avais l'impression pour l'Orient, mais est-ce que c'est vraiment ça l'Italie? Quel statut elle a au niveau stratégique pour tous ces rois?
Il est certain que ce qui est très très important, pour François Ier, l'obsession de tout son règne, c'est le duché de Milan. Ça, c'est-à-dire au début, on ne comprend rien à François Ier si on n'a pas compris qu'il l'a gagné avec Marignan en 1515, et ensuite il l'a reperdu, et ensuite, pendant tout le reste de sa vie, il a voulu le reconquérir. Donc c'est très important. C'est important aussi l'Italie, parce qu'en effet, à partir du moment où Charles Quint prend un tel pouvoir, où il devient empereur en 1519-1520, en fait la France est enclavée, puisque Charles Quint à l'Espagne, il a la Flandre, la Franche-Comté, le duc de Savoie, il s'arrange pour le marier avec une de ses nièces, donc il a aussi la Savoie. Donc enfin, ça se resserre, on sent cet empire, en fait dans les documents c'est très intéressant, parce que on sent cet empire qui se resserre, les griffes qui se resserrent autour de la France et de l'Allemagne, et des princes allemands. Et donc c'est pour ça que François Ier a besoin d'une porte de sortie, donc il veut le Milanais parce qu'il se dit « je l'ai conquis finalement, et pourquoi je ne le reprendrai pas ?» Mais en effet, la vraie porte de l'Orient, c'est Venise. C'est pour ça que Venise est très très importante, et Venise aussi veut rester indépendante, ne veut pas faire partie de l'Empire. Et alors ça, dans cette mesure-là, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'accord tacite entre les Vénitiens, François Ier, qui n'est pas une alliance officielle, mais disons qu'il y a des intérêts communs. Pour mieux comprendre cette époque, il faut voir où sont les intérêts communs. Et là, on a quelques réponses.
Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'Italie n'est pas une entité en tant que telle. C'est une composition de petits royaumes et de républiques, finalement.
Très important. Il y a surtout 5 puissances en Italie. Il y a le royaume de Naples, le Saint-Siège, bien évidemment. Il y a les 3 républiques de Florence, Lucque et Sienne, qui sont toujours en rivalité. Il y a le duché de Milan. Il y a Venise. Donc, à partir de là, il y a en effet des intérêts divergents. Et François Ier sait très bien qu'il aura du mal quand on dit l'Italie. En fait, ce sont toujours, outre qu'ils ont des intérêts divergents, on est dans l'époque de la Renaissance. C'est-à-dire où tout est très compliqué, où les coups fourrés en douce les uns contre les autres ont lieu. Bon, on a aucun sens en Italie de l'intérêt commun. Il y a le pape Clément VII qui est un Médicis. Pour que la famille Médicis continue à avoir le pouvoir sur Florence, est prêt à brader l'Italie à Charles Quint. Bon, il faut le savoir. Donc les intérêts des uns et des autres sont toujours fluctuants, ce qui explique que l'histoire de cette époque soit aussi fluctuante, elle aussi.
Pourtant, les Médicis, il semblerait qu'ils étaient aussi avec François Ier, non? Il n'y avait pas au niveau des finances, au niveau des banques?
Oui. Bien sûr, c'était les banquiers de François Ier. Maintenant, les intérêts politiques ne sont pas forcément les mêmes. Et notamment, je pense au moment où François Ier, pour avoir l'appui du pape Clément VII, propose ce mariage que tout le monde connaît entre Catherine de Médicis et Henri II, qui ne devait normalement pas régner, puisque c'était son frère aîné François qui était le prince héritier. Et donc, quand on lui propose ce mariage en disant c'est tellement prestigieux que le pape va être à nos côtés, en fait le pape dit c'est très bien, c'est merveilleux, je suis très content, combien vous me donnez pour ça ? D'abord, et le mariage a lieu, mais en fait, Clément VII avait re-signé un traité, puisqu'il avait déjà un traité avec les impériaux, il avait re-signé un traité secret avec Charles Quint. Donc, en fait, on n'a rien gagné. Enfin, François Ier n'a rien gagné avec ce mariage. Donc, les intérêts politiques des Médicis, finalement, quelqu'un comme Clément VII est toujours fluctuant. Je dis Clément VII Médicis. Mais en fait, c'est la papauté en général, parce que Paul III, qui est un Farnèse, aura à peu près la même politique de fluctuante entre les deux grands, entre François Ier et Charles Quint.
Alors comment ça se concilie au niveau de la France, de l'Allemagne, enfin avec l'Empire de Charles Quint, l'Italie, comment se concilie cette émergence de la religion protestante finalement avec les musulmans d'un côté et les catholiques de l'autre? Comment ils arrivent à concilier leur économie et leur pouvoir finalement par rapport à tout ça?
Mais donc, tout le monde sait que François Ier, finalement, se rapproche, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, se rapproche, et plutôt qu'on ne le croit généralement, de Soliman le Magnifique. Mais en effet, il a besoin également d'être proche des princes allemands, où ce qu'on appelle l'hérésie luthérienne se développe de plus en plus. Et il est donc, il a la marge de manœuvre est extrêmement étroite. Il doit tout faire en secret, parce que notamment les princes allemands, qui se sentent menacés, puisque eux, si les Ottomans arrivent en Hongrie, n'en sont pas loin. Donc les princes allemands ont extrêmement peur de l'Empire ottoman. Donc ils ne doivent pas savoir ce qui se passe, quelles sont les relations, l'état de l'avancée des relations. Et donc c'est très 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 cloisonné. La politique de François Ier est très cloisonnée, extrêmement cloisonnée. Sa marge de manœuvre est extrêmement étroite. C'est ce que j'essayais de dire dans cet ouvrage.
Ce qu'on lit également au niveau de votre livre et qu'on lit également sur d'autres ouvrages, c'est cette volonté de la part de la plupart des souverains de créer une entité européenne finalement, d'avoir une mainmise sur la plupart des pays de l'Europe.
Je crois que c'était le rêve de Charles Quint. C'était le rêve impérial, c'était surtout le rêve de Charles Quint, qui était le plus puissant et qui était en position, en effet, de réunir l'Europe. Mais, comme on peut dire aussi, c'est sous sa loi, sous la loi impériale. C'est comme la Pax Romana, ça aurait été la Pax Hispanica. Donc finalement, la France, qui était un pays déjà très turbulent et qui était jalouse de son particularisme, n'avait aucune envie de devenir espagnole. Les Français et les Espagnols se détestaient au niveau de la population, enfin en tout cas, et les dirigeants aussi, bien sûr qu'ils ne le disaient pas, c'était pas diplomatique, mais en fait, ils se détestaient aussi.
L'Empire ottoman semble avoir une volonté très importante d'avoir des liens économiques et il a envie de faire partie de cette Europe. Alors pour quelle raison? Parce qu'il avait déjà un empire plus qu'énorme.
C'est une question importante parce que l'Empire ottoman était encore en phase ascendante. Il était installé en Europe centrale et le désir d'entrer encore davantage en Europe, on peut se demander si c'était pas aussi un désir de mainmise. En tout cas pour la Hongrie, c'est évident que Soliman voulait la Hongrie en totalité. Et il voulait Vienne également. Il avait atteint les limites de sa capacité d'expansion. Enfin, l'Empire ottoman avait atteint ses limites, mais il ne le savait pas encore. Il a essayé jusqu'au bout d'avoir Vienne, Constantinople, Vienne et Rome, qui étaient le rêve de ses prédécesseurs, je pense que l'histoire aurait été fort différente de celle que nous connaissons.
Comment se compose la marine de toutes ces entités politiques? Quelle est la part qu'on donne à la marine à cette époque-là?
La marine a une part très importante et il est dommage qu'on raconte toujours l'histoire du côté de la terre. Parce que dans le rapport de force, au départ, du moins avant Pavie, entre François Ier et Charles Quint, l'armée impériale est supérieure, l'armée de terre impériale, mais l'armée de mer française est supérieure à celle de l'empereur. Ça ne durera pas longtemps, mais pendant un temps, elle est supérieure. Donc le rapport de force en mer est relativement favorable à la France. Ensuite, ce qu'il se passe en 1530, il y a un changement total, puisque par le traité de Cambrai, François Ier est obligé de respecter certaines contraintes. Et donc il ne dispose plus de sa flotte, il ne peut plus l'armer, l'augmenter. Et donc à partir de ce moment-là, la flotte française a un rôle discret, c'est-à-dire faire obstacle à celle de Charles Quint, mais on peut plus lancer des programmes d'armement, de construction à Marseille de la même manière. Donc ce qui reste en Méditerranée, c'est la flotte impériale qui ne cesse d'augmenter, la flotte de Venise qui stagne en importance mais qui reste plus importante que la flotte impériale, et la flotte ottomane qui ne cesse, elle, d'augmenter. Donc on peut dire que celle de Charles Quint augmente, mais dans des proportions relativement minimes. Celle de France est officiellement n'existe pas. Celle de Venise, raison pour laquelle Charles Quint voudrait tellement arriver à anéantir la flotte de Venise, c'est qu'il pouvait prendre le pas sur l'Italie et la prépondérance en Méditerranée. Et il y a les Ottomans qui sont de plus en plus dangereux. Et il se passe un tournant dans les années, 38-40, quand Andrea Doria, qui est le grand amiral d'Espagne, se rend compte qu'il ne peut plus rien contre la flotte ottomane, qu'il va falloir pactiser parce qu'il, lui, avec ses forces, ne peut rien. Il y a 40-60 galères, le nombre est à peu près constant. Il y a une quarantaine de nefs, là aussi, le nombre est constant. Et les Ottomans, c'est surtout à partir de Barberousse, ce sont beaux. On dit que souvent qu'avant Barberousse, ils ont beaucoup de navires, mais qui ne sont pas très performants, dirait-on aujourd'hui. Tandis qu'à partir du moment où Barberousse est à la tête de la flotte ottomane, inutile de dire que les bateaux faits à Constantinople sont rapides, légers, peuvent résister aux abordages, ils ont les mêmes proportions que les navires corsaires. Et donc à ce moment-là, la flotte ottomane devient très dangereuse par la qualité des bateaux et par le nombre. Donc.
Pourtant, on a l'impression que la stratégie maritime, elle n'a pas beaucoup évolué par rapport. Là, je vais jeter un pavé dans la mare, mais il semblerait qu'elle n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce qui s'est passé à l'Antiquité. On est toujours sur le système des galères, finalement.
Oui.
Et le combat est toujours le même, pratiquement.
Oui. Dans les années 40, il y a beaucoup de recherches effectuées pour augmenter, notamment la vitesse des galères et la maniabilité, mais ça n'a pas donné des résultats. C'était des recherches qui venaient d'Italie. Ça n'a pas donné de résultats probants. Mais non, on peut dire en effet que ça ne change pas beaucoup les techniques. Simplement, ce qui joue, c'est la loi du nombre. C'est que si on a 300 galères en face et qu'on a 40, même si ces 40 sont meilleures, de toute façon, on n'a aucune chance. C'est vraiment bois contre bois, c'est le choc du bois. C'est le choc du bois. On voit très bien au début des années 1530, quand l'escadre de Castille est détruite, elle se trouve face à un corsaire qui a trois fois plus de galères que lui. Bon, elles arrivent de part et d'autre de chacune de ces galères, en les attaquant des deux côtés. Il y a dans ces cas-là aucune chance de s'en sortir. Mais donc, cette loi du nombre, c'est ce qui donne aussi, qui fait que quand on arrive à Lépante en 1571, les chrétiens, moins la France, bien sûr, arrivent à réunir quasiment autant de galères que l'Empire ottoman. Et c'est à ça qu'on doit la victoire. C'était un nombre faramineux, je n'ai pas les chiffres en tête, mais de part et d'autre. Donc là, le combat était équilibré. Sinon, toute la période intermédiaire où l'Empire ottoman produisait beaucoup, beaucoup plus de navires que l'Empire, il n'y avait rien à faire pour Charles Quint.
Quels sont les moyens pour arriver à armer ces galères? Je veux dire, est-ce qu'ils avaient à faire... Je sais que, par exemple, au niveau de l'Empire ottoman, on utilisait plutôt les esclaves. Au niveau de Charles Quint et, par exemple, de François Ier, qu'est-ce qu'ils ramaient? Est-ce que c'était des esclaves? Est-ce que c'était des prisonniers de guerre?
C'était à peu près la même chose. C'était des prisonniers de droit commun. C'est-à-dire que quand on était dans les prisons en France, on n'avait pas trop intérêt à arriver dans la prison en étant en costaud, baraqué. Dans ces cas-là, la peine de l'art, on n'avait plus la peine de mort, on était condamné aux galères. Donc je pense qu'on faisait une sélection sur les gens costauds en France. Il y avait évidemment tous les esclaves pris dans les combats sur l'adversaire, qui pouvaient être en effet espagnols, enfin qui étaient dans l'autre camp. Et je pense, mais ça c'est pas, je ne suis pas spécialiste, il faudrait voir le travail de Michel Fontenay, il y avait des sources de ravitaillement d'esclaves un petit peu discrètes, parce que à l'époque ça ne pouvait pas être officiel, mais il y avait des endroits en Méditerranée où on pouvait aller se ravitailler en rameur. Tout ça, ça n'est pas très présent dans les archives.
Ouais, on s'en vante pas trop de ce genre de choses.
Ouais, non.
Alors en face de nous, on a Charles Quint qui engage Andrea Doria comme amiral de sa flotte. Qu'est-ce qu'on a, nous, en France, en face justement de Andrea Doria? Qu'est-ce qu'on présente comme type d'amiral?
Ah mais on a personne en France de la qualité d'Andrea Doria. C'est la raison pour laquelle, tant que Doria a fait partie de la flotte française et des autorités, même si il n'a jamais eu le titre d'amiral qu'il convoitait, mais il était là. Tant qu'il a été là, c'est de cette manière que la flotte française a été supérieure à celle de Charles Quint. À partir du moment où il passe à l'adversaire, ça pose un réel problème, et c'est la raison pour laquelle, du côté de l'Empire ottoman, vous l'avez vu, on remonte Barberousse exactement au moment où Doria prend ses fonctions. On remet Barberousse en selle à ce moment-là, pour résister à Doria. Parce que finalement, c'était vraiment les deux plus grands hommes de mer à opposer en Méditerranée. Bon, personne n'est de la classe de Doria ou de Barberousse. C'est pour ça qu'on en fait des adversaires.
Alors Barberousse, c'est pratiquement une légende corsaire ou pirate.
Oui.
Que peut-on dire de lui? Est-ce que c'est véritablement un homme de guerre qui a des bâtiments de guerre, ou c'est vraiment un pirate?
Ah non, il est pirate à l'origine. Il est certain que toute l'époque où il fait partie, il est dans le sillage de son frère Al-Rouj qui prend Alger, c'est plutôt un pirate. Mais semble-t-il déjà lié à l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'ils avaient des intérêts communs avec l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'intérêt commun étant de faire des razzias en Méditerranée occidentale. Mais petit à petit, ce qui est intéressant, c'est que quand le sultan le sollicite dans les années 1530, c'est toujours un pirate. Et quand, au bout de 4 ans, Soliman a énormément besoin de lui, c'est là qu'il lui donne des responsabilités au sein de l'Empire ottoman, de Kapoudan Pacha, et ça, dans l'intention, en effet, de le fidéliser. Il devient un dignitaire de l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être un pirate qui agit pour son propre compte, c'est fini ça. Et je crois que ça a été ça délibéré de la part de Soliman de lui donner ses responsabilités pour pouvoir le tenir un petit peu.
Alors comment arrive-t-on, nous, en France, puisqu'on est quand même sujet à des virets des pirates du Maghreb, comment on arrive à avoir des alliances avec Barberousse?
Ah, je crois que Barberousse, très vite, entend le message, parce qu'il est quand même lié à Soliman, qu'il faut ménager les Français. Et on voit très bien que la dernière descente sur Toulon date, je pense, de 1530. Et ensuite, il ne peut pas avoir un contrôle sur l'ensemble de ses troupes. C'est-à-dire que de temps en temps, il a certains de ses corsaires, comme le Corsetto, qui prennent des initiatives. Lui-même ne tient pas vraiment ses troupes en main. Mais en règle générale, il y a beaucoup moins d'attaques à partir de 1530. À partir du moment où il y a un rapprochement entre l'Empire ottoman et la France, on voit beaucoup moins d'attaques de bateaux français en Méditerranée occidentale. Alors que les côtes et les navires impériaux, eux, continuent à être à brûler, et les côtes surtout à être ravagées.
Pourtant, vous parlez justement de descente au niveau de la garde, enfin des petits villages autour de Toulon, de la Valette, où ils font des razzias énormes de jeunes femmes et autres. Il y a quand même des razzias qui sont faites, ça je veux dire.
Non, là justement, je cite celle des années 30 parce que elle a eu lieu à la suite d'un différend entre Barberousse et son lieutenant, qui était Sinan dit le Juif, le Judéo, tel qu'on l'appelait dans les textes. Et donc, c'était une initiative du judéo, cette descente. Et c'est justement très spectaculaire parce que c'est la dernière fois qu'il y a ces sortes de descentes où on emmène tout, absolument tout, les femmes, les enfants, les animaux, les meubles, ce qui est dit dans les textes des chroniques. Il ne restait plus rien. En revanche, pour les côtes, et notamment les côtes de la Pouille et la Calabre, ils vont subir ça pendant encore des années et des années. Eux, ça va durer des années, voire des siècles, les dévastations de ces côtes-là. Nous, celles de France, on sent très bien qu'à partir des années 30, elles sont, sinon totalement épargnées, du moins, elles ont beaucoup moins à souffrir que celles d'Espagne ou d'Italie.
Alors juste, c'est pas une anecdote, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on a une idée de la méthode qu'ils utilisaient pour faire ces razzias ? Parce que je sais que du côté de Perpignan et autres, on enterrait les navires sur la grève et on s'éparpillait pour aller attaquer les villages et prendre les esclaves qu'il fallait. Comment on faisait du côté de Toulon ? Est-ce qu'ils attaquaient directement ? Est-ce que les navires étaient armés de canons ? Comment ça se passait ?
C'est très difficile. Les textes ne donnent pas énormément de renseignements là-dessus. Il y a une lettre pour l'attaque justement de Sinan le Judéo qui attaque Maguelone, Narbonne qui fait une descente dans les années 1526. Et on signale simplement qu'ils avaient des arcs. Et arc et flèche, et que déjà l'artillerie arbalète que Clermont-Lodève, qui est le lieutenant général de Provence, arrive, et que son armement est supérieur à celui des corsaires. Donc là, on a une indication très nette. Finalement, ils ont une puissance de feu que les autres n'ont pas en face. Et que Barberousse aura, à partir du moment où il est lié à l'Empire ottoman, il aura les mêmes arbalètes que les chrétiens en face. Mais sinon, quant aux techniques d'approche et d'abordage, les arbres abattus, l'arbre étant en Méditerranée, le mât. Donc les mâts étaient abattus, donc on n'arrivait pas à voir de très loin les bateaux, ça avait l'air de rondins dérivant au fil de l'eau. Et c'est de cette manière-là qu'ils pouvaient approcher assez près sans être signalés. Bon, des petites choses comme ça, mais je pense que c'est assez insuffisant pour en parler longuement.
Alors on s'étonne un petit peu de ces systèmes de combat naval, quand on sait par exemple qu'au XVe siècle, la marine par exemple basque, était fortement armée, pratiquement dans les premiers navires armés. Bon, je pense à ça parce que nous, on a l'épave du navire de cavalerie, qui est un navire qui avait déjà au moins 8 canons, qui était très fin, qui allait très rapidement. Et on s'étonne qu'on ne retrouve pas ce type de navire dans les escadres françaises ou dans les escadres d'en face, c'est-à-dire italiennes ou turques, enfin ottomanes.
Mais je ne sais pas, je ne suis pas vraiment spécialiste, mais pour ces navires dont vous parlez, il faut du vent. Il faut un vent constant. Or, le problème en Méditerranée, c'est qu'il y a des sautes de vent en permanence, voire la fameuse bonasse calme plat. Et donc, dans ces cas-là, on est complètement immobilisé. Et à la merci, justement, de l'ennemi, parce qu'un navire immobilisé devient une proie très facile pour des petites embarcations légères qui l'entourent et se livrent à l'abordage. Arrive à escalader les rambardes. Et donc, je pense que en Méditerranée, ça n'a pas été utilisé pour cette raison. Énormément de vaisseaux. Et ce que j'ai vu là très précisément, c'est quand Charles Quint attaque Alger avec une grande majorité de nefs. Il y avait beaucoup plus de nefs que de galères. Il avait prévu des bateaux qui contenaient de l'armement, les chevaux, la nourriture, etc. Et il y a quelqu'un qui observe l'armada de Charles Quint et qui dit « Les nefs, c'est très bien quand il y a un bon vent, sinon ce sont des fardeaux inutiles ». Ça, j'ai relevé ça, parce que ça me semble en effet important pour expliquer pourquoi il n'y a pas davantage de bateaux à ce moment-là, de navires, de vaisseaux ronds en Méditerranée. Pourquoi on utilise surtout des galères de plus en plus importantes, mais des galères.
Alors est-ce à dire que tous les combats navals que l'on voit entre Charles Quint, entre les Ottomans et les Français, est-ce à dire qu'ils n'ont lieu qu'en été ? Parce que vous dites qu'il y a une période de navigation qui est plus importante et plus intéressante, due aux conditions climatiques, et qu'en hiver, finalement, les bateaux ne naviguent pas.
Les galères sont ça, c'est une règle absolue, tant à Venise qu'en Provence que dans l'Empire ottoman. Hein, c'est très précis. C'est la Saint-Georges à Saint-Dimitri et du calendrier chrétien et pas. et pas grec. Donc, je ne sais plus, c'est octobre-mars ou avril. Mais c'est très 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 précis. C'est la saison où, de toute façon, il fait mauvais. Et de toute façon, on risque de perdre ses galères, sans combat, de revenir avec rien du tout, sans qu'il y ait eu combat à cause des conditions climatiques. Et Andrea Doria est très 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 à cheval sur ses exigences. Et justement, quand Charles Quint lui dit, au moment d'Alger, on est en septembre, et alors pourquoi septembre, ce serait pas une bonne saison pour combattre? Et Charles Quint était quelqu'un, finalement, en dernier ressort, c'est à lui que revenait la décision. Il impose ça à Doria. Et Doria, à la fin, lui dit, bon, vous avez vu, vous ne m'avez pas écouté, et on a eu des tempêtes. Finalement, ce n'est pas les Algériens qui sont bien défendus, c'est surtout les tempêtes qui ont causé ce gigantesque désastre qui a été l'expédition d'Alger.
Alors c'est ça qui est étonnant, justement, pendant cette période-là, que je trouve quand même très significative par rapport à d'autres siècles. Il y a quand même énormément de naufrages, énormément de pertes humaines dans tous ces combats, toutes ces tempêtes. Moi, je vois, vous parlez par moments de 30 galères qui se fracassent, 14 galères, et à chaque fois, c'est 350 hommes ou 400 hommes qui disparaissent comme ça dans chaque navire. Ça semble effroyable, en fait.
Oui, oui, oui. Mais c'est effroyable. C'est effroyable. Quand Doria se retrouve devant Villefranche, au moment où Barberousse y est également, il est repoussé par une sorte de, Paul Jove dit, de tourmente soudaine, enfin une sorte de bourrasque très très violente. Mais en effet, là, il a 4 galères qui coulent et on ne retrouve personne. Tous les galériens, ça coule corps et bien. On a essayé ensuite de récupérer les canons, mais il n'y a aucun survivant. C'est en effet quelque chose d'effrayant. C'est effrayant.
Alors comment peuvent-ils, parce que quand même un navire est cher, l'armée un navire est cher, comment peuvent-ils envoyer comme ça au sacrifice autant de choses qui se monnaient de manière très onéreuse? C'est parce que les bateaux leur appartiennent pas, finalement.
Et de toute façon, ça leur coûte très très cher. Ouais. La flotte coûte aux souverains extrêmement cher. C'est la raison pour laquelle les ambassadeurs vénitiens disent, et de François Ier et de Charles Quint, mais ils n'ont pas voulu se donner les moyens d'avoir le nombre de navires et de galères qu'il aurait fallu. Mais on sait très bien que quand ils arrivaient à la cinquantaine, enfin, ils ne pouvaient absolument pas faire l'effort financier de l'Empire ottoman de dire, bon, on en construit 150. C'était impossible. Impossible, ça revenait beaucoup trop cher.
Enfin, on s'aperçoit bien quand même à la lecture de votre livre que les connaissances de la stratégie maritime, ils n'en ont pas. Ça semble quelque chose de tellement, pas secondaire, mais c'est dans l'ignorance la plus totale par rapport à ce qui va se passer dans les siècles suivants.
Oui, il y a une part de fatalisme. Aussi, on prend la mer, et puis, notamment chez les Français, Doria sait très très bien, elle connaît les conditions climatiques. Mais les autres, en effet, il y a une certaine naïveté dans la manière dont ils abordent les choses. On suit les ordres, et puis voilà, on a l'ordre de revenir en France, c'est pas la bonne saison, on y va quand même. Et on a des ennuis. Énorme. Vous avez vu le moment où une escadre française a été envoyée pour rejoindre ce liman et que la saison n'était pas favorable. C'est absolument terrible, cette escadre qui tournicote dans toutes les îles ioniennes alors que ce liman attend son allié français. Et en fait, elles arrivent à la Valona, le vent les repousse, elles tournent autour de l'île de Zante, elles remontent, elles tournent en rond en fait. À cause du mauvais temps et à cause des vents tournants, et les galères tournent aussi. C'est assez curieux.
Alors on va en venir à la politique de François Ier. Comment à cette époque-là, un homme tel que François Ier, avec des idées très chrétiennes, arrive à se lier avec Soliman le Magnifique et cette religion musulmane?
Ah, je crois que François Ier a compris le premier, ce qu'on appelait la riole politique. Hein, c'est évident qu'il est passé entièrement dessus. Et puis, je pense aussi que pour les dirigeants n'avaient pas cette image qu'on colportait dans le public pour exciter les populations contre les musulmans, les amener à réagir, à se défendre. Finalement, les ambassadeurs, on voit les ambassadeurs français très impressionnés parce que c'était par la puissance de l'Empire ottoman, par la somptuosité de la cour de Soliman. On n'a pas une vision négative du tout. On les voit extrêmement impressionnés. Et Soliman et François Ier n'avaient sûrement pas il était obligé, il détestait tellement Charles Quint et Charles Quint était tellement dangereux pour lui qu'il a été obligé d'avoir recours. Je crois qu'il y a ces Jove qui dit, et il veut tellement récupérer le Milanais, dit-il en parlant de François Ier, qu'il est prêt à faire appel au diable en personne.
On n'hésite pas. Ça paraît tellement curieux et tellement le contraire des idées reçues que l'on a. Que ça semble assez incroyable à cette époque-là où on chasse pas l'hérétique, hein, pas encore, mais ça va pas tarder. Mais où il y a des alliances comme ça économiques et territoriales, enfin, avec des gens comme les Soliman, comme Barberousse, contre des pouvoirs politiques chrétiens que sont Charles Quint. C'est ça qui semble assez invraisemblable.
Oui, c'est pour ça qu'il c'est intéressant d'aller travailler dans les archives. On découvre quelquefois des visions qui sont assez différentes de ce qu'on apprend dans les livres d'histoire.
Sinon, au niveau de la construction navale, j'en reviens parce que c'est mon petit dada favori. Quels sont les grands chantiers qu'on a en France, par exemple, pour construire les galères ?
Moi, je connais Marseille. À Marseille, il y en a sûrement dans les petits villages autour, à La Ciotat, on construit quelques galères. Ne serait-ce que pour la défense. On construit à Toulon aussi. Les villes sont déjà responsables de leur propre défense. Mmh. C'est-à-dire que les bateaux à la garde d'eux. Donc, je sais qu'il y a plusieurs lieux aussi dans le royaume de Naples. Mais à vrai dire, ce n'est pas du tout ce qui m'a... Mes recherches n'ont pas été orientées là-dessus. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je regrette, mais je ne peux pas vous répondre.
Non, c'était juste pour savoir. Parce qu'en fait, François Ier n'a pas véritablement de galère à lui. Ce sont ses ducs ou ses pairs qui, eux... arme la France avec leur propre argent.
Non, le corps des galères royales est bien celui de François Ier.
Oui.
Mais Montmorency, qui est extrêmement riche, le grand maître de France, a aussi son propre contingent de galères, avec un autre chef. C'est Saint-Blancard qui commande les galères royales et Christophe de Lubiano qui commande les galères du grand maître.
Et comment se passent les directives de combat et autres ? Est-ce que c'est régi par le roi ou chacun a vraiment son autonomie ?
Non, chacun n'a pas son autonomie. Il y a quand même une autorité qui est l'autorité royale. Mais en effet, ça ne se passe pas d'une manière aussi évidente parce que le pouvoir royal n'est pas aussi fort qu'on le pense. Le grand maître, Montmorency, a un pouvoir énorme. Et d'autres membres du Conseil, ensuite, comme le cardinal de Tournon, ont aussi un pouvoir important. Donc les choses ne sont pas aussi... On est très très loin de Louis XIV et de cette structure hiérarchique du pouvoir. C'est en ça que le XVIe est intéressant, parce que les choses ne sont pas aussi claires qu'on le pense. Chacun n'est pas à sa place. Les hommes peuvent avoir plusieurs fonctions. Ils peuvent avoir des responsabilités dans l'armée, ils peuvent avoir des responsabilités diplomatiques. Et c'est après que chacun... et dans sa place et dans son rôle. Au XVIe, ça sort un petit peu des...
Alors, que viennent faire les chevaliers de Malte entre cette relation entre François Ier et Soliman le Magnifique ?
Les chevaliers de Malte, qui s'appellent à l'origine Saint-Jean de Jérusalem, sont, eux, complètement opposés à l'Empire ottoman, puisque ça fait partie que l'une de leurs missions est en effet de poursuivre les musulmans. En général, ça fait partie, ils ont une mission de santé, puisque ce sont des hospitaliers, ils ont des hôpitaux, ils s'occupent des malades, et ils ont aussi une mission de lutte contre les musulmans. Donc ça, c'est très clair. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'après leur départ de l'île de Rhodes en 1522, au moment où Charles Quint leur donne l'île de Malte, où ils vont construire, mais ils ne l'ont pas encore construite, cette magnifique capitale qui est La Valette, au début, ils n'ont pas grand-chose, ils ne sont pas tellement protégés. Enfin, tout ça se fait petit à petit. Mais Il y a de gros problèmes parce qu'au sein de l'ordre, il y a quand même des partisans de Charles Quint et d'autres qui sont partisans de François Ier. Et on voit des clivages très nets. Donc, ceux des membres de l'ordre qui sont partisans de François Ier suivent la politique du roi, c'est-à-dire ne sont pas si opposés que ça aux musulmans. Et donc, c'est comme ça qu'on voit le prieur de Capoue, Léon Estrozzi, qui est le fils d'un banquier florentin richissime, qui fait tout le voyage de 1543 aux côtés de Barberousse, quand même. Il a été déchu de son prieuré de Capoue, mais enfin, il est issu de l'ordre de Malte. Et il est quand même aux côtés de Barberousse. C'est de dire que là aussi, les choses ne sont plus aussi simples qu'on pourrait le penser.
Alors, est-ce qu'il faut croire que c'est l'argent qui domine, en fait ?
Alors, de plus en plus, oui. De plus en plus, à partir de 1530, c'est l'argent qui domine, oui.
Ça va être ça jusqu'au 21e.
Oui, ça, c'est pour ça que cette période est assez intéressante. On se dit, bon, c'était déjà comme ça que ça fonctionnait.
Oui, parce qu'on retrouve plein de ressemblances, même avec ce qui se passe maintenant dans la construction de l'Europe et tout. Les idées, l'arrivée de la Turquie qu'on veut, est-ce qu'on la met dans l'Europe ou pas. Et on retrouve finalement des parallèles énormes dans tout ce qui se passe au XVIe siècle. Oui. Et actuellement avec ces types d'idéologies que l'on a. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans votre livre.
Oui, c'est la raison pour laquelle le XVIe, je ne suis pas la seule à le penser, est plus proche de nous que d'autres siècles comme le XVIIe ou le XVIIIe. Là, le XVIe, on est très proche de ce qu'on vit maintenant, comme situation générale.
Oui, mais c'est ce qu'on avait vu, nous, dans le tournage des Cadets de Guyenne. On s'aperçoit que des gens comme Labo ici ont des idées, finalement, qui vont être reprise à la Révolution, mais dans un domaine où il sort l'égalité pour tous, etc. Le XVIe siècle est extraordinaire pour ça, finalement.
Oui.
Parce que c'est en fait une époque excessivement moderne et qui se retrouve actuellement.
Exactement. Les écrits, les lettres de certains, une fois dépouillé un petit peu, la forme étant un petit peu francisée, un petit peu modernisée, pardon, on se retrouve, on a l'impression que ce sont des hommes de notre époque. Pour ça, Guillaume du Bellay.
Alors, vous démontrez dans votre livre que finalement, François Ier, c'est l'homme qui agit seul, qui semble mener toutes ses affaires, des affaires secrètes, de manière seule. C'est lui qui régit, qui gère, qui travaille tout seul sa politique. Est-ce que c'est
non, il agit pas seul. Il a son conseil. Mais sa politique orientale est son domaine réservé. C'est le seul domaine où il agit seul et il a ses hommes avec lesquels il a une relation directe. Mais c'est pas du tout le cas général.
D'accord.
Pour tout le reste, ses relations avec Charles Quint, etc., passent par la consultation de son conseil, dont les membres changent selon les luttes de factions au sein de la cour. Enfin bon. Mais c'est simplement la politique orientale qui est son domaine, sa chasse gardée. Comme vous dites.
Alors avec ces différents combats navals que l'on voit, où cela c'est une catastrophe inouïe, est-ce qu'on peut dire que la politique de François Ier vis-à-vis de cet Orient est quelque chose de négatif ? Est-ce que ça c'est une politique ratée ?
Non, moi je dirais pas ça. Je ne dirais bien sûr pas ça, parce qu'il a réussi ce qu'il voulait sans doute, c'est de mettre sans arrêt Charles Quint aux abois. Et en fait, il agitait le risque de Barberousse, mais finalement, Barberousse était limité. Qu'est-ce qui était en danger ? C'était les côtes. C'était en effet le commerce, c'était les lignes commerciales. Mais les choses s'arrêtaient, et on sent très bien François Ier s'arrêter quand il a été question que Soliman prenne l'Italie. Alors là, c'était trop sérieux, trop grave. Et on voit vraiment François Ier, si j'ose employer le terme, botter en touche et se replier et ne pas faire le nécessaire pour que Soliman débarque en Italie. Simplement, pour le reste, avoir sans arrêt ce risque des Ottomans au-dessus de la tête, au-dessus de Charles Quint, c'était une manière de le tenir, de l'empêcher de s'intéresser, d'organiser ses armées pour entrer en France. Donc je pense que l'histoire aurait été très très différente, l'histoire de l'Europe, s'il n'y avait pas eu cette alliance entre François Ier et Soliman contre Charles Quint.
Alors qu'est devenu finalement Barberousse une fois que François Ier n'a plus voulu de lui travailler avec lui ?
Oh, c'était lui, enfin, Barberousse était déjà très âgé. Hein, il faut voir quand il entre au service du sultan, je crois qu'il a déjà 66 ans dans les années 33-34. Donc c'était déjà une personne âgée qui abusait beaucoup de la vie. Il se ménageait pas, je crois qu'il buvait beaucoup, en dépit du Coran et de son... Donc c'était un homme usé, aigri, vous voyez, comme tout le monde, des générations de jeunes marins. Il n'était plus le seul à pouvoir servir et le meilleur pour servir Soliman. Il y en avait d'autres, il y avait d'autres talents qui se dessinaient. Donc je crois que ces dernières années, François Ier ou pas, il aurait eu une retraite, il était à la retraite de toute façon. Son âge, ça faisait que c'était un homme fini. Au retour, c'était déjà un homme fini quand il est rentré en 43-44 de Provence, de sa fameuse campagne de Provence.
Bien, on avait également, on parlait tout à l'heure de ce manque de connaissances maritimes de la part de nos dirigeants au niveau des royaumes. Vous donnez l'exemple de cette méconnaissance de la mer, lorsque, avec un récit de Nicolas Durand de Villegagnon, oui, qui est chevalier de Malte, qui raconte qu'à un moment il débarque, il dit le 23 octobre, il débarque les galères pouvaient assumer le ravitaillement, et finalement ils prennent juste pour 2-3 jours de ravitaillement pour aller sur la côte, pour essayer de monter les infanteries et compagnie, et en fait le mauvais temps se déclare et les galères sont obligées de sortir, donc ils n'ont plus de ravitaillement. C'est une catastrophe inouïe. J'arrive à me poser la question, comment peut-on oublier à ce point les conditions climatiques et à savoir qu'on ne peut jamais faire confiance à la mer?
Ah ça, il y a eu une erreur de la part de Charles Quint de ne pas vouloir écouter Doria. Il voulait tellement régler cette histoire d'Alger qui a été, ce que je crois, montré dans le récit. Il aurait dû partir à Alger normalement pour Alger, lancer l'expédition à la fin du mois d'avril. Et puis il y a eu énormément de contretemps et on se retrouve en septembre. Il veut quand même lancer son expédition contre Alger. Et il n'écoute pas Doria, qui lui dit « mais c'est plus du tout la bonne saison ». Et en effet, les catastrophes se succèdent. Les orages, les viens, et il perd toute sa flotte. Ça a été désastreux, cette expédition d'Alger. Mm-hmm. Mais enfin, on peut dire aussi que l'Empire avait des ressources, parce qu'il se reconstitue très vite, plus vite que ce que pensaient les Français. Les Français se sont dit, c'est bien, sa flotte est complètement anéantie, c'est gagné. Et finalement, il reconstitue une flotte extrêmement vite, Charles Quint, après le désastre d'Alger.
Oui, effectivement, on s'aperçoit que... Ils font construire des bateaux un peu partout, et dont je parlais des bateaux basques, dont effectivement au Pays Basque, où ils construisent 49, qui c'est énorme, énorme. Ouais. Et ça a des rapidités faramineuses. Ouais. Alors moi je suis toujours très étonnée, parce que quand on parle de l'Hermione actuellement, ou du Jambard à Gravelines, où on met l'Hermione, ça fait plus de 16 ans, le Jambard, ça fait déjà quelques années, et finalement on construit ça de manière très 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 lente, alors qu'on a des instruments beaucoup plus rapides et autres. Et eux, ils construisent des bateaux en 4 mois, même pas 5 mois. Les bateaux sont mis à la mer. Ça sous-entend qu'il y a quand même une main-d'œuvre derrière qui est phénoménale.
Oui. Un réservoir de main-d'œuvre qu'il est possible de mobiliser extrêmement rapidement.
Et on le voit, la même chose au niveau de l'armée, finalement. Oui. Ils arrivent à lever des armées énormes qu'ils envoient à l'abattoir, finalement. Parce qu'on on parle de Napoléon avec sa chair à canon, mais... On a la même chose sous Charles Quint et avec François Ier.
Oui, on trouve, c'est un petit peu loin, mais on trouve dans le journal de Valbel, je crois que c'est là-dedans, je ne suis pas sûre, des remarques très intéressantes. Il parle d'un moment où il y a un effort militaire à faire très rapide, et il explique que les gens travaillent nuit et jour, sans aucun jour férié, et ils sont payés de manière, pour eux, sans doute pour ces pauvres ouvriers, c'était sans doute des sommes importantes, et ils avaient toute la population marseillaise qui venait au chantier, travailler au chantier dans ces conditions-là. C'est assez intéressant de voir que, évidemment, il n'y a pas d'avantages sociaux, on les prend tout corvéable à merci, et on les paie pour ça. Et moyennant quoi, on arrive à trouver de la main d'œuvre. Alors, savoir si elle était qualifiée, si elle était bien encadrée, ça, je n'en sais rien.
Autre chose qui m'a étonnée, c'est cette manière d'utiliser, d'engager, par exemple, des Italiens comme Virginio Orsini, comme chef des galères ou dirigeant dans l'armée navale de François Ier.
Mais on n'a pas du tout cette notion de nation qu'on va avoir par la suite au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on est la nation, par exemple, ce sont les Marseillais qui disent « il sortit de Marseille et il alla en France ». Quand on a cette remarque de Valbel, on dit « mais il ne se sentait pas du tout français, il sentait marseillais ». Et pas français, puisqu'on sort de Marseille et on va en France. Et donc, chacun était attaché à sa région, les Florentins à Florence. Et tout. Mais il n'y a pas de notion de nation française. Les langues de siens se sentent langues de siens. Notamment la région dont vous parlez, toute la région de Dordogne, la Gascogne, ils se sentent gascons avant tout. Et donc le roi de France ou les Italiens, ça n'a pas beaucoup d'importance être avec des gens du roi de France ou des Italiens. Pour eux, ce sont les mêmes étrangers, il n'y a pas de doute. Alors l'important, c'est d'avoir une langue commune. Je pense qu'ils parlaient tous ensemble une sorte de sabir qui était entre, c'est ce qu'on lit aussi, entre du français, de l'italien. Enfin, ils arrivaient à se comprendre, mais ça n'était pas un problème d'avoir des étrangers. Enfin, il y avait des protestations, mais ça se faisait couramment, très couramment.
C'est vraiment étonnant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'est-ce que vous en retirez de toute cette période, finalement ? Cette période compliquée entre l'Est, l'Ouest, le Sud, l'Orient, la Méditerranée.
Cette période, c'est sa modernité. C'est simplement de constater qu'en effet, il faut pas beaucoup de circonstances extérieures pour qu'on se retrouve dans une gigantesque pagaille comme au XVIe siècle, que les choses sont pas en place éternellement, pour toujours. Et là, ces périodes complètement mouvantes, entre deux ordres, entre l'époque médiévale et entre l'époque moderne. C'est la raison pour laquelle j'aime cette période, c'est que c'est une période où tout peut arriver, où on est complètement dans des périodes de transition. Voilà. Et je parle de cette période de transition parce qu'à mon avis, c'est la dernière avant celle qu'on vivra peut-être dans quelques temps. Les périodes de transition m'intéressent énormément. Dit où rien n'est stable, rien n'est...
Vous dites également que dans le domaine de maritime, c'est un tournant, le XVIe siècle. On arrête le système des galères, de la stratégie des galères,
oui,
pour
oui.
aller vers autre chose de beaucoup
oui,
plus moderne.
Oui, 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 oui. Les grandes lignes de vaisseaux du XVIIe, les vaisseaux en ligne. Je dois dire que c'est très curieux parce que pour moi qui vis à mi-temps dans le monde des galères, c'est un monde qui m'est complètement étranger. Je ne comprends pas quelle est la stratégie qui commande à ces déploiements de voiliers. Je ne sais rien du tout de cette époque qui commence très vite avec le XVIIe. Mmh. Avec ces voiliers en ligne qu'on voit quelquefois dans certains tableaux, mais c'est une autre époque, l'époque du voilier.
Ah ben oui, c'est des tonnages qui sont 10 fois supérieurs, ouais, aussi, ouais. Même 100 fois supérieurs, avec un nombre d'hommes beaucoup plus important, des vaisseaux qui sont beaucoup moins malléables,
oui,
je dirais.
Oui, 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 oui.
Donc c'est évident que là, on est obligé d'avoir des stratégies de combat différentes. Et puis il y a l'armement qui rentre en jeu.
Et l'allure des hommes, parce que je trouve que les perruques, ces hommes avec de grandes perruques, ça me paraît tellement difficile de s'identifier à ces types qui étaient en jabot et perruques, qui commandaient, tandis qu'à l'époque du XVIe, Doria était toujours très élégant, mais les autres, ils allaient au feu, ils étaient déchirés, ils étaient blessés, ils étaient couturés. On a l'impression beaucoup plus de pagaille qu'on n'a pas. Peut-être à tort, hein, parce que je pense que les combats étaient aussi violents et aussi atroces au XVIIe. Mais enfin, disons que la vision qu'on en a est très différente et me paraît plus moderne. Peut-être que je me trompe. J'adore cette période du XVIe siècle et donc je suis peut-être pas objective.
Est-ce que vous avez des questions à poser ? Non, ils ont bu vos paroles. Quel est votre calendrier, vos recherches qui vont continuer ? Sur quoi allez-vous vous intéresser prochainement ?
Je vous dirais simplement que je continue à retravailler sur des documents sur des événements dont j'ai parlé dans le précédent, dans l'âge d'or des galères de France et dans l'Alliance Impie, pour pouvoir affiner un petit peu certaines situations, justement les rapports politiques entre la papauté, entre les princes allemands et le pouvoir. Donc je vais parler toujours de la même chose, mais d'une manière un petit peu différente. Et puis peut-être aussi en prenant un peu de liberté, parce que mon premier ouvrage, L'âge d'or des galères de France, je voulais montrer que j'avais un très grand savoir, que j'avais bien tout bien, que je connaissais les documents, que je connaissais mon sujet. Maintenant, au troisième, je vais me permettre de dire un petit peu plus ce que je pense, moi, de la situation, me donner un peu plus de liberté pour le récit.
À votre avis, l'histoire est-elle toujours un renouvellement, enfin je veux dire, ou un recommencement? Retrouve-t-on les mêmes erreurs?
Oui, plus ou moins, mais enfin, je crois quand même que tout vient de la situation. Les situations évoluent, les situations sont différentes. Finalement, ce qui est à considérer, c'est la situation, les réactions des humains en face de certaines situations. Sont peut-être les mêmes, mais l'important, c'est de considérer la situation. Et je trouve qu'il est dommage très souvent, les historiens regardent, considèrent ça de leur chambre, de leur période à eux, sans voir que quand on est dans l'action, dans l'urgence, il se passe quelquefois des choses qu'on ne peut pas expliquer quand on est tranquille et qu'on calcule tant d'hommes d'un côté, tant d'hommes de l'autre. Ça aurait dû être autrement. Ça aurait dû être autrement, non. On n'en sait rien.
Bien, j'espère, en tous les cas, moi, dans mes intentions, c'est d'un jour faire un débat sur cette période-là,
oh oui,
avec d'autres historiens, et que vous participiez avec beaucoup d'énergie dans ce genre de choses.
Très très bien, je suis à votre disposition.
Merci beaucoup Edith, et puis à très bientôt. Donc, ici Autre Radio, Autre Culture, au revoir. Autre radio, autre culture.